Pierre me demandait tout à l'heure de quoi j'allais parler aujourd'hui. Je lui ai dit que j'allais parler du serpent. Alors, on va voir ça. Je vous propose de méditer dans le livre des Nombres, déjà au chapitre 21, les versets 4 à 9. Rassurez-vous, on parlera surtout du Seigneur. Ils partirent dehors la montagne par la route de la mer des Joncs, en contournant le pays d'Édom. Mais le peuple perdit courage en chemin. Le peuple se mit à critiquer Dieu et Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter d'Égypte ? Pour que nous mourions dans le désert ? Car il n'y a ici ni pain ni eau, et nous sommes dégoûtés de ce pain de misère. » Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents brûlants qui le mordirent, et il mourut un grand nombre de gens en Israël. Le peuple vint trouver Moïse en disant, « Nous avons péché en critiquant le Seigneur et en te critiquant. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Moïse intercéda pour le peuple. Et le Seigneur lui dit, « Fais faire un serpent brûlant et fixe-le à une hampe. Quiconque aura été mordu et le regardera, aura la vie sauve. » Moïse fit un serpent d'airain et le fixa à une hampe. Et lorsqu'un serpent mordait un homme, celui-ci regardait le serpent d'airain et il avait la vie sauve. Et nous méditons ce que Jésus en dit de cette histoire dans l'évangile de Jean au chapitre 3, les versets 13 à 17. Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit ait en lui la vie éternelle. Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais est la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen.
Amen.
L'évangile de Jean, frères et sœurs, associe souvent la gloire de Jésus avec sa croix. Par exemple, quand Judas sort pour le trahir, Jésus s'écrie, « Ça y est, le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié par lui. C'est bientôt qu'il le glorifiera. » Le Fils de Dieu est glorifié quand il est rejeté, crucifié. Avouez que c'est étonnant quand même. La croix est une horreur, une malédiction. Elle n'a aucune beauté. On s'attendrait plutôt à contempler la gloire de Jésus dans sa résurrection. Et c'est aussi le cas, bien sûr. La résurrection est sous-entendue dans l'admirable jeu de mots proposé à Nicodème venu interroger Jésus. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Jésus aimait faire des jeux de mots. Quand Jésus parle de cette élévation, l'élévation de Jésus sera celle de la croix, là il sera élevé. Mais ce sera aussi celle de la résurrection et probablement aussi celle de l'ascension. Évidemment, la croix ne manifesterait pas la gloire du Fils de Dieu si elle n'était pas le prélude nécessaire à sa résurrection. C'est de la mort que la vie jaillira. C'est du tréfonds de l'horreur de toutes les violences humaines que s'exprimera le pardon absolu. C'est de cette malédiction que s'étendra pour nous la bénédiction. Voyons cette histoire de serpent. Jésus s'adresse à Nicodème dans l'Évangile. Nicodème, un pharisien, qui connaissait bien sa Bible, et Jésus lui rappelle cet épisode dans la Torah, dans les premiers livres de la Bible, dans le livre des Nombres, l'épisode du serpent d'airain, ou du serpent de bronze, c'est la même chose. Et Jésus essaye de lui faire comprendre qu'il préfigurait sa propre élévation. Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit ait en lui la vie éternelle. Étrange affaire que ce serpent, vous ne trouvez pas ? Vous avez déjà réfléchi un peu à cet épisode ? Vraiment une étrange affaire. Alors que Moïse, par ailleurs, dans la Torah, dans la loi, se montrait très virulent contre le moindre petit risque d'idolâtrie. Voilà qu'il invite dans cette histoire son peuple à se tourner vers une bestiole en bronze pour trouver le salut. Non mais, était-il inconscient ? Avait-il bien compris la parole de l'Éternel ? Et de fait, dans l'histoire du peuple juif, est arrivé ce qui devait arriver. Le serpent de bronze est devenu une idole. Bien plus tard, le roi Ézéchias, on voit ça dans le deuxième livre des rois au chapitre 18, le roi Ézéchias jugera nécessaire de faire détruire ce serpent d'airain qui avait été conservé, car les fils d'Israël avaient évidemment brûlé de l'encens devant lui jusqu'à cette époque. Pourquoi utiliser ce serpent, tellement semblable à des divinités des cultes païens de l'époque ? Quelques exemples. Et on a effectivement trouvé en Palestine ce genre de serpent de bronze ou de terre cuite qui était associé à des cérémonies païennes. Mais interrogeons-nous aussi, peut-être pour nous-mêmes aussi, où réside le risque d'idolâtrie ? Dans l'objet ou dans ce que les hommes peuvent en faire ? Après tout, Dieu prend toujours ce risque dans la Bible, dans l'histoire, de nous adresser la parole par des moyens humains. D'ailleurs, il ne peut pas faire autrement pour que, avec notre petite cervelle, nous puissions comprendre quelque chose. Dieu nous parle par nos mots, mais aussi par des signes, des représentations, des rites dans la Bible. Le serpent d'airain n'est pas un cas isolé dans l'Ancien Testament. Il aurait été possible, et ça a d'ailleurs été fait parfois, de sacraliser à l'excès, d'idolâtrer les tables de la loi, le bâton d'Aaron, les chérubins sur l'Arche d'Alliance. C'est aussi étrange, ces anges qui étaient sculptés sur l'Arche d'Alliance. Ou bien les bœufs sur lesquels reposait la vaste cuve du temple de Salomon. Les bœufs, les vaches, les veaux, ça pouvait rappeler quand même des souvenirs assez mauvais dans l'histoire du peuple juif. La Torah même, les rouleaux de la Bible eux-mêmes, ne risquaient-ils pas de devenir l'objet d'un culte ? Après tout, Dieu parle la langue des humains. Il fait le choix d'utiliser des signes qui leur sont familiers. Alors le peuple râlait, le peuple ronchonnait, le peuple récriminait. Il critiquait l'Éternel et Moïse. Il doutait même de la bénédiction du Seigneur. Il n'y a ici ni pain ni eau, et nous sommes dégoûtés de ce pain de misère. Le texte dit expressément que le peuple s'est placé contre Dieu. Il refusait de reconnaître la bonne main de l'Éternel. Il mettait en cause sa bénédiction. Il va donc découvrir les dangers cachés, les dangers rampants du désert, ceux dont il avait été préservé, les vipères notamment. Ces vipères sont probablement des cérastes, communément appelés les vipères à cornes, dont le venin peut faire mourir un homme en 30 minutes, des vraies sales bêtes. Je préfère les petits oiseaux dont tu nous parlais tout à l'heure. La Bible parle de serpent brûlant pour désigner ce caractère particulièrement venimeux. Et la Bible le dit bien, dans le Deutéronome par exemple, que ces déserts d'Orient sont le pays des serpents brûlants, des scorpions et de la soif. Et le peuple d'Israël était en train d'oublier qu'il ne saurait s'y aventurer sans la protection de l'Éternel. Il était tenté d'oublier que c'est en Dieu seul qu'il devait placer sa confiance. Le Seigneur propose alors un signe visible, un signe bien visible de salut aux enfants d'Israël. Il dit à Moïse, « Fais faire un serpent brûlant, en bronze donc, ou en airain, et fixe-le à une hampe, un grand bâton. Quiconque aura été mordu et le regardera aura la vie sauve. » Les Israélites pourront ainsi regarder la réalité en face, cette réalité rampante qu'ils ne voulaient plus voir. Ils vont pouvoir regarder en face la réalité du mal qui les détruit. Alors bien sûr, le serpent, mais surtout ce qu'il symbolise, le serpent. Quand j'ai dit à Pierre tout à l'heure que j'allais parler du serpent, il m'a tout de suite dit « Ah, le serpent d'Éden !» Ah oui, on pense tout de suite, serpent tilte le serpent à ce moment-là, qui est le diable dans le jardin d'Éden. Le serpent, c'est le péché qui habite le cœur de l'homme et qui le détourne de son Dieu. C'est ce péché que le peuple va pouvoir regarder en face et en élevant ses yeux vers le ciel, le mourant se souviendra que c'est de l'Éternel que viendra son salut. Alors Moïse fit un serpent d'airain et le fixa à une hampe. Et lorsqu'un serpent mordait un homme, celui-ci regardait le serpent d'airain et il avait la vie sauve. Le serpent semeur de mort allait devenir espérance de guérison et de vie. En regardant ce serpent de bronze, les Israélites tourneraient leur cœur vers la promesse, vers la manifestation de la gloire de l'Éternel. C'est ce que nous allons voir maintenant avec ce que Jésus en dit. Au début de nos évangiles, quand Jésus... Cyril, s'il te plaît. Au début de nos évangiles, quand Jésus part au désert, on voit pas grand chose, hein, avant de commencer sa prédication publique, il rencontre aussi le serpent, tout au début des évangiles. Jésus est aux prises avec le diable, qui épuise contre lui les pièges de ses tentations. Luc précise dans son évangile qu'à la fin de ses tentations, le diable s'écarta de Jésus jusqu'au moment fixé, ou bien, selon d'autres sources, jusqu'à une occasion. Quelle sera cette occasion ? Peut-être l'agonie de Jésus au Mont des Oliviers, juste avant son arrestation. Là, Jésus demandera à ses disciples de prier précisément pour ne pas tomber au pouvoir de la tentation. Et Jésus, saisi par l'angoisse, s'écriera « Père, si tu veux écarter de moi cette coupe, pourtant que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se réalise. » Mais plus certainement, le moment fixé sera celui de sa crucifixion. Quand Jésus, sur la croix, subira toutes les attaques du mauvais, abandonné, rejeté, insulté, torturé, calomnié, mis à mort, tous les assauts du diable, toute l'expression du péché humain s'acharneront contre lui. Là, Jésus s'offrira vraiment comme celui qui porte le péché, comme nous le montrait Guillaume tout à l'heure, et comme la victime du péché. Dans sa mort, il portera sur lui la malédiction liée au péché. Il s'offrira à la morsure du serpent, à cette morsure mortelle qui atteint tous les humains. Il s'offrira à elle pour nous en libérer. Dans le livre des Nombres, il était écrit que le Seigneur envoya contre le peuple des serpents brûlants qui le mordirent, et il mourut un grand nombre de gens en Israël. Dans l'Évangile, c'est le Seigneur qui envoie en faveur de son peuple son Fils unique pour le délivrer justement des attaques du serpent, pour que le monde soit sauvé par lui. Il ne donne pas la mort, il la prend sur lui pour donner la vie et pour donner la vie éternelle. D'une certaine manière, le serpent d'airain annonce l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La croix, instrument de torture et de mort, deviendra un arbre de vie, nous dit l'Apocalypse, un arbre de vie dont le feuillage sert à la guérison des nations. Alors on peut se demander comment Nicodème, en dépit de toutes ses connaissances de rabbin juif, de maître en Israël, comme l'appelle Jésus, comment ce Nicodème aurait pu comprendre tout cela alors que rien encore dans l'évangile de Jean ne laissait présager la crucifixion de Jésus et encore moins, bien sûr, sa résurrection. Un indice peut-être. Ce notable lettré, venu de nuit pour trouver Jésus, ne pressentait-il pas quelque chose chez son interlocuteur? La foi ne s'éveillait-elle pas en Nicodème quand il s'interrogeait « Personne ne peut opérer les signes que tu fais » par la Jésus si Dieu n'est pas avec lui. Jésus ne serait-il pas un nouveau Moïse, porteur d'une vérité et d'une libération pour son peuple? La révélation que Jésus offre de lui-même à Nicodème dépasse tout cela. Il est lui-même le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. Il se désigne même comme le Fils de Dieu. Il n'apporte pas seulement une libération, il est lui-même, Jésus, le salut. Quiconque croit en lui a la vie éternelle. Nicodème restait ancré dans ses solides traditions. Jésus bouscule ses certitudes. Désormais, c'est ce qu'on voit dans ce chapitre 3 de Jean, désormais il faut naître de nouveau. Il faut naître d'en haut. Il faut mettre sa confiance en ce Messie. On peut même envisager la vie éternelle. C'est beaucoup. Beaucoup de ruptures. Beaucoup de choix décisifs. Pourquoi faudrait-il placer sa foi en Jésus seulement pour avoir la vie éternelle après tout? Pourquoi cet exclusivisme que ce que d'aucuns aujourd'hui pourraient presque qualifier de sectarisme? Pourquoi cette porte étroite? On se souvient que le regard élevé sur le serpent d'airain sauvait la vie de la personne meurtrie. Il suffisait ce regard pour guérir tous ceux qui étaient empoisonnés. Eh bien, Jésus seul peut sauver chacun, parce que Jésus seul est celui qui est descendu du ciel. Lui seul est le Fils unique de Dieu. Lui seul est la lumière dans l'obscurité du monde. Lui seul peut porter toutes les conséquences du péché des hommes. Lui seul a la possibilité d'exprimer dans sa plénitude le pardon de Dieu. Lui seul détient la puissance de vaincre la mort. Si le salut est en Jésus seul, ce n'est donc pas pour en limiter l'accès. Bien au contraire, c'est pour en ouvrir largement la porte. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde, dit le Seigneur, pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Nicodème aurait-il pu espérer une plus grande libération? Au cœur de notre passage de l'Évangile retentit l'un des plus célèbres versets bibliques que vous savez probablement par cœur, que nous nous empresserons de faire apprendre par cœur à ces petites filles qui viendront bientôt à l'école du dimanche. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Eh bien, en venant de nuit, Nicodème ne cherchait-il pas la lumière ? Jésus deviendra la lumière de ces nuits, Fils de Dieu, révélation de tout l'amour du Père. Il est le salut d'Israël et du monde entier. Ce salut passera par son élévation sur la croix, par son élévation dans la gloire, pour que sur notre monde descende en abondance la vie de Dieu, la vie éternelle. Pour ceux qui croiront en lui, pour ceux qui deviendront ses témoins, nous dit encore l'Apocalypse au chapitre 22, alors il n'y aura plus de nuit, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière et ils régneront au siècle des siècles. Alors, frères et sœurs, portons nos regards sur la hampe du salut, sur cette croix glorieuse, parce qu'elle nous délivre du serpent, de la malédiction du péché et de la mort. Vivons dans la reconnaissance de la foi, de l'accueil, du don gratuit. Vivons dans cette appropriation personnelle de la grâce, dans la joie du salut, pour devenir en ce monde ces témoins du Dieu qui en Jésus-Christ a tant aimé le monde. Quiconque croit en lui a la vie éternelle. Amen. Nous prions. Nous l'avons déjà fait au cours de ce culte, Seigneur. Nous le faisons encore à ton appel à travers cet évangile. Nous portons nos regards, mais nous tournons surtout notre cœur, Seigneur, vers Jésus, Jésus crucifié, Jésus ressuscité, Jésus dans la gloire éternelle. Devant lui, nous voulons fléchir nos genoux, nous voulons nous incliner, nous prosterner, parce que c'est par lui seul, Seigneur notre Dieu, que tu nous donnes le salut, le pardon de nos péchés, la vie éternelle, le don de ton esprit pour vivre chaque jour de notre vie dans sa communion, dans la joie et dans la paix. Oui, donne-nous cet esprit qui vient de toi, Seigneur, pour qu'il fortifie notre foi, pour qu'il nous renouvelle de jour en jour, pour qu'il nous rapproche toujours plus de toi et nous donne d'être dans ce monde les témoins de ton amour, de ton salut, de ton Fils unique. Amen.
Amen.